Bonsoir à tous et bienvenue pour notre rencontre de ce soir. Commençons par nous tourner vers l'éveil, entrer en présence de l'éveil, les trois joyaux. Les trois dimensions de l'éveil, les trois dimensions de la présence éveillée, et de développer, d'éveiller en nous une attitude, une motivation de bienveillance altruiste, universelle, vers tous les vivants. C'est ce que l'on nomme refuge et bodhicitta, dont nous récitons la formule en tibétain pour commencer et en français ensuite. Somnye chodan sogin chonam la janju bandhu danin jabzuji dangin jinsu jibes nangi Jola penchi asanjien jupa isho. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Notre soirée est dédié à la pratique de Chenrezi, la bonté, la bienveillance, l'altruisme éveillé. Et particulièrement à cette pratique du Bouddha de la bonté, du Bouddha de la compassion, de l'amour, Chenrezig, sa pratique dans la vie quotidienne. C'est un thème très riche et très important que nous ne pourrons qu'effleurer. Et que j'aimerais que nous commencions à aborder d'une façon très simple en comprenant qu'intégrer la pratique du Bouddha de la bonté, intégrer la pratique de Chenrezig dans notre vie, est intégrer l'empathie altruiste. Donc, il ne s'agit pas de représentation, d'imagination ou d'exercice de yoga compliqué, mais fondamentalement, il s'agit d'amener dans notre vie une attitude, une expérience d'empathie altruiste ou d'altruisme empathique. Et ainsi de bonté, de bienveillance, on pourrait dire aussi d'amour. L'empathie est au fond de ce dont il s'agit. Une empathie réceptive, disponible, dans une disponibilité bienveillante, qui souhaite le bien, le bon, dans une disponibilité aimante, une empathie aimante. Et aussi une empathie qui, dans sa réceptivité, participe à la difficulté, aux peines, aux souffrances de l'autre et aspire à la libération des douleurs, des souffrances de l'autre. Une empathie compatissante. Et c'est aussi une empathie, une présence empathique qui est libre, joyeuse, heureuse et qui peut inspirer et communiquer cette joie libre. C'est aussi encore une présence ouverte, équanime, au sens où en celle-ci est une liberté d'attachement, libre d'attachement partisan, d'attraction, de répulsion, ouverte, équanime. Donc, il y a dans la pratique de Chenrezig toutes ces qualités de l'empathie, amour, compassion, joie, équanimité, qui sont aussi connues comme les quatre vertus illimitées et qui sont aussi les quatre dimensions de la présence de Chenrezig. Cette présence de Chenrezig étant celle de ces quatre expériences, étant celle de l'empathie aimante, compatissante et aussi joyeuse et équanime, donc c'est là que se situe le cœur de cette intégration qui est une pratique altruiste, de bienveillance altruiste. Altruisme signifiant non égoïste. L'altruisme est largement le contraire de l'égoïsme. L'égoïsme est une attitude égocentrée et l'altruisme pourrait être dit allocentré ou tourné vers les autres et ouvert. Donc, intégrer la pratique de Chenrezig dans sa vie et intégrer une bienveillance altruiste dans les faits et gestes de sa vie quotidienne, ce qui vient dans l'ouverture du cœur et de l'esprit, ce qui vient dans l'accueil de l'autre et la capacité à se donner, à s'ouvrir. Ceux qui pratiquent le sadhana, la pratique de Chenrezig, ont déjà suivi l'entraînement de l'esprit, l'ujjong, et vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer Tonglen, cette pratique qui consiste à accueillir et à offrir au-delà des résistances, au-delà des blocages. Il est très important de considérer et de sentir, de vivre la pratique de Chenrezig comme une façon de cultiver ainsi cet entraînement spirituel, une façon de développer, de cultiver ton laine, accueillir, offrir d'une façon ouverte et au-delà des blocages et des résistances. L'on s'entraîne avec le mantra Om Mani Padme Hum. Il est justement dans l'entraînement de l'esprit, dans l'ujjong, une maxime qui dit entraîne-toi continuellement avec des paroles ou des mots. Il peut y avoir différentes formules susceptibles de nous entraîner en nous rappelant une attitude de bienveillance altruiste. Mais dans le contexte du sadhana de Chenrezig, la formule par excellence est le mantra de Chenrezig, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, qui, quel qu'en soit le sens littéral ou symbolique, exprime justement cette bienveillance altruiste. Et le dire, le prononcer, l'énoncer, invoque et éveille en nous cette bienveillance altruiste. Alors, cela vient dans l'entraînement et par l'entraînement, mais la formule et l'expérience sont associées. Et la formule évoque l'expérience. La formule est un charme. Alors c'est un mantra. Et les mantras sont, si on devait les traduire le terme mantra en français, c'est assez difficile, mais peut-être que le terme qui s'approcherait le plus serait charme. Un charme. Une formule qui a une puissance évocatrice et qui a le pouvoir de charmer ou de il peut y avoir beaucoup de charme, mais on dit aussi une parole efficiente, une parole opérative qui inspire. En tout cas, Om Mani Padme Hum, comme rappel et comme façon de dévoquer et de sentir cette bienveillance altruiste, cette bienveillance altruiste éveillée, ouverte, qui est la nature de Chenrezig. Et chaque fois que dans notre vie, dans notre journée, une circonstance particulière évoque ou suscite bienveillance altruiste, Om Mani Padme Hum. Et Om Mani Padme Hum fait vivre, nous rappelle, il anime en nous. Le charme a le pouvoir d'animer l'expérience en nous. Elle vient vivre en nous. Et c'est une façon aussi de la transmettre, de la communiquer. Dans cette récitation du mantra, Om Mani Padme Hum, qu'elle se fasse vocalement, qu'elle se fasse mentalement, qu'elle se fasse répétitivement avec un mantra ou occasionnellement, suivant les circonstances, et un élément très important de l'intégration, c'est un rappel. Et l'intégration est rappel, c'est le souvenir, le retour à l'expérience de bienveillance altruiste qui constitue et qui permet l'intégration de celle-ci dans notre vie. En développant avec les autres une relation de Bouddha à Bouddha. Welcome Bouddha. Une relation de Chenrezig à Chenrezig. De Bouddha à Bouddha, c'est de Chenrezig à Chenrezig. C'est aussi une façon de dire de cœur à cœur. Mais du cœur essentiel, de cœur à cœur, c'est aussi d'expérience c'est peut-être d'expérience éveillée à expérience éveillée, mais c'est de fond à fond, du fond du cœur au fond du cœur, de nature de Bouddha à nature de Bouddha. De Bouddha à Bouddha, c'est en voyant et en contactant la nature éveillée qui est en l'autre, et en parlant et en communiquant à partir de cette nature éveillée qui est en soi. Ainsi, de Bouddha à Bouddha, de cœur à cœur. Dans la présence, présence ouverte, cœur à cœur, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Les Chinois le font quelquefois. Plutôt que de dire allô, Om Mani Padme Hum. Non, ce serait peut-être un peu excentrique en Europe, mais si ce n'est vocalement, c'est peut-être dans une récitation du cœur ou mentale. Et l'ouverture appelle l'ouverture. Et c'est une excellente façon d'initier la communication sans préjugés. Là, vous allez me dire, mais considérer l'autre comme étant Chenrezig, c'est peut-être un préjugé. Oui, c'est un préjugé d'une certaine façon, mais non, ça n'est pas un préjugé parce que c'est la réalité. Et c'est une façon aussi de neutraliser tous les autres préjugés. Donc, s'il y a quelque chose d'un petit peu de l'ordre encore d'un concept, c'est un bon concept qui pointe vers la réalité fondamentale. Et c'est une excellente façon d'initier la communication, d'initier la relation. Toute relation interpersonnelle. Et nous sommes, somme toute, très souvent en relation, dans le relationnel. Donc c'est une excellente méthode de communication. On dit même communication, communion. L'intégration du sadhana de Chenrezig dans la vie quotidienne est aussi l'intégration de la pleine présence. Dans la pratique de la phase dite de perfection, Dzogchen, l'on est invité à entrer dans l'expérience de pleine présence fondamentale. Il y a beaucoup de présences plus ou moins pleines et plus ou moins vides. La présence est-elle pleine? La présence est-elle vide? Est-elle pleine de vide? Est-elle vide de plein? Il y a beaucoup de nuances. Donc, ne compliquons pas. Mais une présence ouverte. Une présence sensorielle ouverte. Et dans son ouverture, pleine. Et on peut même dire parfaite, parfaite au sens de complète. Dans le sadhana de Chenrezig, cela est en rapport avec ce que l'on nomme kirsosum. Kirsosum, c'est une expression tibétaine, qui signifie les trois modes, et particulièrement les trois modes d'intégration. D'intégration de la présence. De la présence de Chenrezig, de la présence de la bonté éveillée. De la présence authentique qui est naturellement et fondamentalement bonne, qui est naturellement bonté fondamentale. Donc, ces trois modes d'intégration qui se trouvent dans le sadhana juste avant la récitation du mantra, Nandja Ritton Yerme Djur, signifie que l'expérience que l'on vit, l'état que l'on vit, est. Alors, en tibétain, on dit Nanton, Jaton, et Ritton. Nanton, littéralement, signifie apparence vide. Alors, une apparence vide, qu'est-ce que c'est qu'une apparence vide? Déjà, Qu'est-ce qu'une apparence? Une apparence, c'est tout ce qui est susceptible d'apparaître. Tout ce que l'on, particulièrement au niveau visuel, tout ce que l'on peut voir. Souvenez-vous de la prière d'autolibération de Guru Rinpoche. On chante la première stance. C'est bon? Écoutez bien. Ici, tous.
Habita et tous ses habitants, les apparaissent ainsi, restent de la non-saisie, purée de toutes ses lueurs, clarté vide et corde s'adresse la prière qu'apparence qui de s'autorise.
Donc, voilà. Merci, Guru Rinpoche. C'est une instruction très profonde d'autolibération. D'autolibération de tout ce qui est apparent. Et que dit ce chant que nous venons d'énoncer? Pardon? Ça frotte. Pourtant, j'ai pas de barbe. Hein. Tout ce qui est apparent, tous les objets de la vision, toutes les choses externes, alors c'est le monde, interne, ce sont les habitats ou habitats, habitants. Les habitants, ce sont les vivants. L'habitat, c'est le monde externe. Mais tout, bien que cela apparaisse ainsi, comme c'est, reste en l'état de la non-saisie. Alors, c'est là le point crucial, le point clé, l'état de non-saisie. Pour les pratiquants qui ont l'habitude de la pleine présence, il est une façon de trouver l'état de non-saisie, particulièrement dans le champ visuel, c'est avec le regard large qu'est la vision panoramique. C'est une façon de voir sans regarder, et cette vision qui est une sorte de nue vision globale, est libre de saisie, ou avec moins de saisie, n'allons pas trop vite, mais est une façon de découvrir et de toucher cet état de non-saisie des apparences dans le champ visuel. Et il est ainsi ce que l'on nomme une clarté vide. Clarté signifie une certaine luminosité, lucidité. Clarté vide de saisie. Et cette clarté, lorsqu'elle est véritablement vide de saisie, c'est-à-dire aussi vide de dualité, n'est autre que le corps de la déité, omniprésent et omnipénétrant, en l'expérience de non-dualité. Et au lama, j'adresse la prière que l'apparent vide s'auto-libère. Et cette auto-libération vient dans l'inspiration qui permet l'ouverture et le lâcher-prise, d'où l'expression de la prière. Donc ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode concerne le son, le sonore, et aussi ce qui est de l'ordre de la parole. On chante la deuxième stance? C'est vous qui chantez. Moi, j'ai interdit de chanter parce que je chante trop mal. C'est parti.
Et...
tous les sons ici, plaisants, déplaisants, tous les sons plaisants, déplaisants. sont vides de saisie, de nouveau. Alors, un son entendu, mais sans être écouté, et un son qui n'est pas stimulant, évocateur, ou qui ne vient pas nous... stimuler une réaction mentale. Exemple de son vide, si vous êtes dans un pays étranger, alors, en Inde, pour ceux qui ont été dans un taxi collectif indien, c'est un peu comme dans la salle des voûtes ici, mais... Au lieu que tout le monde parle français, tout le monde parle hindi ou népali ou taman, ou bref, des dialectes locaux auxquels on ne comprend rien. Et donc, il y a un son, mais le son est vide de sens. Vide de saisie aussi par la même, parce qu'on n'en saisit rien. Alors, c'est un exemple, il a ses limites. Il pourrait y avoir néanmoins des intonations, on pourrait percevoir, mais ils sont vides de... Là, une image, un exemple intéressant pour le son vide. Ce son est libre de repères et il peut être aussi libre de locuteurs. Ça s'exprime les deux vers. Mais Et pareillement, comme pour l'apparent, au lama, j'adresse la prière, que le son vide s'auto-libère. Et s'auto-libère, se libère de saisie, se libère du saisisseur que je suis. Donc, c'est le deuxième mode d'intégration, l'intégration du sonore comme son vide. Et le troisième mode d'intégration, nous allons redonner la parole à Guru Rinpoche. Et c'est toujours ici. 1, 2, 3.
Yes.
Merci. Ici, tout ce qui est mouvement, comme les objets du sens interne. Qu'est-ce que le sens interne ? C'est le mental. Donc, tous les objets du mental, c'est-à-dire toutes les pensées, ou toutes les conceptions qui émergent et deviennent et constituent toutes les émotions et les passions des cinq poisons, toutes ces pensées et ces émotions. Émotions passionnelles ici, hein, il y a différents types d'émotions. Ne les invite ni ne les suit. Ngunsu Jeche Loiche Michu en tibétain. Alors, tout ce qui émerge à l'esprit, l'on ne va pas au-devant en l'attirant et on ne va pas, on ne le suit pas non plus en donnant suite. N'entre pas en l'agir du mental, en l'agir des fabrications du mental. Tout ce qui émerge, émerge, mais sans que j'intervienne. Le mouvement du mental laissé ainsi à lui-même sans soi, est libéré en l'ouverture sans centre ni périphérie du Dharmakaya, en l'immensité. Si on prend un autre terme du sadhana, en l'immensité de la gnose. C'est un jargon, mais qui est plein de sens. Le mouvement laissé sans fabrication et sans fabricateur s'auto-libère, est auto-libéré. Et pareillement, au lama, j'adresse la prière quand son inspiration, je puisse en quelque sorte ainsi lâcher cette saisie qui me constitue, et qu'ainsi la cognition s'autolibère. C'est le troisième mode d'autolibération et le troisième mode d'intégration, celui de toutes les pensées et émotions. Donc nous avons vu quelques aspects ainsi de l'intégration du sadhana de Chenrezig. Entendu aussi et particulièrement que apparence vide, sonorité vide et cognition vide, telle que nous venons, si ce n'est d'en parler ou d'en faire parler Guru Rinpoche, sont respectivement les modes du corps, de la parole et de l'esprit, et les corps, parole, esprit de Chenrezig, ou la présence de Chenrezig dans l'apparent, le sonore et le cognitif ou le mental. Et en conclusion, et peut-être sans commentaire, parce que c'est explicite peut-être. La dernière stance, entendez bien. Il nous reste 10 minutes d'entretien ou de remarques, d'observations, questions-réponses, que ce soit ici ou ailleurs, avec nos amis connectés dans la toile. Arnaud, s'il vous plaît.
Oui, Rinpoche, merci. Au début de votre enseignement, vous nous avez parlé des 4 illimités. Au long du chemin et face à l'océan des souffrances que nous propose le samsara, comment cultiver la joie?
La joie est celle qui vient de la libération, de l'éveil et de sa compréhension ou de son expérience. Et c'est l'espoir et la possibilité de santé. La santé fondamentale est une réalité, et aussi triste, pénible, douloureux que soit le samsara, la possibilité de libération est une espérance et ou une joie. s'il vous plaît. Nos amis de la toile sont silencieux.
Non, ils sont out. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions ce soir.
Bien. Pascal, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a des sons qui ne sont pas vides? Les mantras?
Tous les sons peuvent être pleins de saisie ou tous les sons peuvent être vides de saisie.
D'accord.
Mais un mantra est une parole pour le silence, ou une parole de silence, ou un son pour la désaisie. Un son de désaisie. Un mantra souvent n'a pas de sens littéral, ou le sens littéral n'est pas le plus important. Donc, c'est une formule qui n'est pas conceptuelle et qui, récité ou animé en soi, prend la place de la saisie conceptuelle et opère une désaisie. Et tout en opérant une désaisie, amène ou évoque une présence éveillée. Donc, le mantra est considéré comme une forme de parole vide ou de parole pour la vacuité.
Une question de Fredo. La joie n'est-elle pas une des caractéristiques fondamentales de la nature même de l'esprit?
Bonsoir Fredo. Oui.
Il est des Bouches-du-Rhône, pardon.
La joie, le bonheur, la félicité sont des qualités de la nature de l'esprit ou de la nature de l'expérience, ou sont des qualités de la nature éveillée, bonté fondamentale, et aussi ainsi des qualités de Chenrezig. Bien. Eh bien, écoutez, à ce point, je vous propose que petit moment de contemplation, justement, Om Mani Padme Hum, dans la bienveillance altruiste, l'empathie, et cette ouverture en laquelle apparence, sonorité et pensée sont libres de saisie. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Sarva Mangalam, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au revoir.